Bonjour, je veux commencer ce message avec une simple question. As-tu trouvé ta place dans la maison de Dieu? As-tu trouvé ta place dans la grande maison de Dieu? Je pose cette question parce que en discutant avec les uns, avec les autres, ici ou ailleurs, souvent ailleurs d'ailleurs, j'en arrive à ce triste constat que beaucoup de personnes ont du mal à trouver leur place dans la grande famille de Dieu. Et il y a souvent les situations sont différentes, hein, donc on ne va pas lister les raisons, mais il y a souvent cette frustration, ce sentiment en fait, de ne pas être à la place où Dieu nous veut. Et je parlais ce matin d'une femme frustrée dans le Nouveau Testament. Une femme qui aimait le Seigneur, une femme qui servait le Seigneur, mais qui dans son service avait des frustrations. Vous voyez de qui je veux parler? Je veux parler de Marthe ce matin. Et à travers son exemple, je veux relever quelques observations et quelques applications pour nos vies. Alors je vais commencer la lecture, on trouve ce fameux passage de Marthe et Marie que vous connaissez bien. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, Luc 10, au verset 38. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Vous connaissez très bien ce passage et ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse vraiment ouvrir vos yeux, ouvrir vos oreilles spirituelles pour que vous puissiez peut-être voir des choses que jusqu'à présent vous n'aviez pas vues. Alors peut-être pour visualiser la scène, et comme les enfants sont ce matin parmi nous, les enfants nous font la chance de rester avec nous ce matin, on va un petit peu mettre en scène, si vous voulez, ce passage. Alors, j'aimerais demander à quelqu'un de faire le rôle de Jésus. Gevorg, est-ce que tu voudrais jouer ce rôle? Ça ne va pas être très compliqué, tu auras juste à faire ce que je vais te demander. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Alors, du coup, il faudrait que tu te choisisses quelques disciples. Alors, on ne va peut-être pas appeler 12 disciples ou encore moins les 72, mais est-ce que tu pourrais au moins choisir 4-5 personnes? Voilà.
Yannick.
Continue. Des gars ou des filles?
Oh, mais, des disciples.
Ah, y a beaucoup de choix. Dominique. Ah, je prends les grands. Hein.
Tu prends...
Et Laetitia aussi.
On peut... 3, 4, est-ce que tu veux en appeler encore?
Ça va. Si ça fait l'affaire.
Ça fait l'affaire? Alors ça c'est intéressant, juste une parenthèse. Gevorg, pourquoi tu as choisi cela?
C'est les plus proches, dire, c'est avec qui j'ai beaucoup d'affection.
D'accord, ça c'est intéressant.
Avec les autres aussi, mais...
Parce que Jésus, quand il appelle ses disciples, quand il leur confie une mission, il les connaît. Et il est capable d'accomplir la mission. Là, Gevorg n'a pas appelé des inconnus. Gevorg a appelé des personnes qu'il connaissait. Je ferme la parenthèse. Alors, on continue. Allez-y. Comme Jésus était en chemin. Alors là, vous pouvez marcher à la suite de Jésus. Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alors là, on va imaginer que c'est la maison de Marthe. Il nous faudrait... Deux sœurs, est-ce qu'il y a deux sœurs qui voudraient jouer le rôle de Marthe et Marie? Dans cette histoire-là, c'est le rôle principal. Alors, deux sœurs qui auraient ce matin le zèle de se lever pour jouer... Ah, on peut les applaudir. Venez. Donc c'est... Alors, venez, 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 n'ayez pas peur. Ton prénom ?
Wendia.
Wendia ?
Et... Alice.
Alice, alors, deux sœurs. C'est deux sœurs de sang ?
Oui.
Bah, c'est parfait. Alors, à la maison, qu'est-ce qui avait l'habitude de se lever la première quand il y avait quelque chose à faire pour débarrasser la table et des mamans qui... C'était plutôt toi. Est-ce que tu voudrais bien, Alice, jouer le rôle de Marthe ? Bon, ben, Marthe va... Ah, tu voudrais bien jouer Marie, d'accord. Je continue. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Ah, j'ai oublié. C'est vrai que Jésus avait beaucoup de disciples qui le suivaient et il y avait aussi beaucoup d'enfants parmi ses disciples. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui voudraient venir aussi ? Bethel, tu veux venir ? Bien. Tu te choisis quelques copains avec toi ? Venez. Ceux qui lèvent la main, venez, venez. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Alors, Marthe, installe tes invités. Allez, les enfants, venez. Laissez venir à moi les petits-enfants, a dit Jésus. Ne les empêchez pas. Jésus était entouré d'enfants. Et les enfants, souvent, si parfois les adultes vous disent « Mais non, mais les histoires de Jésus, mais c'est des bêtises », ne les écoutez pas. D'accord ? Parce que c'est Jésus la vérité. Et souvent, les adultes viennent s'opposer entre vous et Jésus pour vous empêcher d'approcher Jésus. Mais Jésus est la vérité. Marthe, qui fait le service, et elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Georg, tu peux prêcher pour de vrai. C'est ton moment. Continue. Bien. Voilà, juste pour visualiser un petit peu, une petite mise en scène. Jésus entre dans la maison de Marthe. Et ce village dont il est question, il n'est pas fait mention ici, mais nous savons dans plusieurs autres passages qu'il s'agit du village de Béthanie. Béthanie, qui se trouvait à environ 3 km de Jérusalem, sur les monts des Oliviers. C'était un endroit où aimait se rendre Jésus et ses disciples. Donc c'était un endroit qu'il connaissait bien. Et il entre dans ce village où habite Marthe, qui lui ouvre sa maison. Alors ce passage arrive juste après une discussion de Jésus avec un pharisien qui lui demande, Jésus, que faut-il pour entrer dans le royaume de Dieu ? Mais le pharisien lui posait cette question simplement pour le confondre, pour trouver une raison de le condamner. Alors Jésus lui donne cette fameuse parabole du bon samaritain. Vous savez, cet homme qui a été roué de coups et laissé pour mort. Une première personne, c'était un sacrificateur qui vient et qui ne fait rien, simplement parce qu'il avait un objectif. Peut-être qu'il allait à Jérusalem pour rendre un culte à Dieu. Simplement, il a laissé l'homme gisant à terre sans lui porter secours. Un deuxième homme encore du peuple juif vient, un serviteur de Dieu, et laisse aussi cet homme sans lui porter secours. Et c'est le bon samaritain, le samaritain. Vous savez, le samaritain, c'était ces hommes et ces femmes qui étaient détestés du peuple juif parce que, selon eux, ils n'avaient pas la bonne religion, la bonne façon de penser, la bonne façon de servir Dieu. Et Jésus passait la plupart de son temps à éviter les pièges que lui tendaient les pharisiens, les hommes en fait qui avaient l'apparence de la piété. Il passait à travers les pièges de ces pharisiens pour aller chercher non pas ceux qui avaient l'apparence de la piété, mais ceux qui avaient le cœur préparé à recevoir Dieu. Juste simplement ceux qui avaient le cœur préparé à la parole de Dieu. Et Jésus donc se frayait un passage entre les pièges, et là il arrive dans cette maison, la maison de Marthe. Là, Jésus était le bienvenu. Et Marthe s'affaire dans tous les sens, à faire le service, et Marie est assise au pied de Jésus à écouter sa parole. Ça nous montre qu'il y a plusieurs façons d'accueillir Jésus. Une façon consiste à se poser, et une autre façon consiste à se mettre en mouvement. Là d'ailleurs, Marthe, vous ne la voyez pas parce qu'elle s'affaire certainement en cuisine. Marthe occupée à divers soins domestiques. On pourrait lister Peut-être qu'elle, avant d'accueillir Jésus, elle avait balayé pour faire un peu de ménage. Peut-être qu'elle a récupéré des chaises. Elle est peut-être allée voir les voisins pour réclamer des chaises. Elle n'en avait certainement pas assez. Et peut-être que les voisins, sachant que Jésus débarquait, peut-être se sont aussi invités à la fête. Donc, elle a peut-être amené des bassines pour laver les mains et les pieds des disciples de Jésus, parce que c'était la coutume à l'époque. Quand on recevait des invités, eh bien, on leur lavait les pieds. Peut-être qu'elle a commencé à leur servir à boire. Peut-être qu'elle a commencé à leur préparer à manger. Bref, il y avait tant à faire pour bien recevoir Jésus et ses disciples. Donc, on voit là deux sœurs avec des tempéraments bien différents. Un tempérament très dynamique, hein, un tempérament très entreprenant, actif, et puis un autre tempérament plus posé, plus contemplatif, peut-être plus à l'écoute aussi. Je vous remercie pour cette belle illustration. On peut les applaudir. Vous pouvez retourner. Avant de charger un peu Marthe, avant de faire quelques reproches à Marthe, j'aimerais ce matin la réhabiliter. Parce que dans l'histoire des commentaires qu'on peut lire, dans les messages, on a souvent accablé Marthe en disant, voyez, c'est celle qui n'avait rien compris en fait, c'est celle qui s'affairait dans tous les sens, et Marie, c'est celle qui était la femme spirituelle, à l'écoute de Jésus, qui avait tout compris. J'aimerais ce matin, vous savez, dans notre culture franco-française, on a l'habitude de donner 5 reproches ou 5 critiques avant d'apporter un compliment à une personne, un petit compliment. Et là, j'aimerais adopter la méthode anglo-saxonne. Vous savez, les Américains sont très bons. C'est-à-dire qu'ils apportent 5 compliments avant de faire la moindre petite critique. Et encore, c'est tellement bien tourné qu'on se demande si c'est vraiment une critique. Alors ce matin, je vais adopter la méthode américaine. Je veux réhabiliter Marthe en disant tout d'abord que c'était une disciple qui aimait le Seigneur. Et elle avait cet amour, ce zèle pour le servir. On sait aussi que Jésus aimait Marthe. On peut le lire dans Jean 11 au verset 5. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Donc on voit que Marthe est citée en premier. C'était certainement que c'était l'aînée de la famille. Donc Marthe aimait Jésus et elle voulait le servir de tout son cœur. Une deuxième qualité qu'on peut lui reconnaître, c'est son don d'hospitalité. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui a ouvert sa maison à Jésus, peut-être à une dizaine, vingtaine, trentaine de disciples, et peut-être à ses voisins, pour qu'ils puissent être au bénéfice de la parole de Dieu. C'est elle qui a facilité la propagation de la bonne nouvelle dans son village. Elle accueille une vingtaine d'individus, et parmi ceux-là, Dieu en personne. Dire qu'elle avait quand même la pression. Hein. Quel stress ça devait représenter. On peut lui reconnaître aussi un certain dynamisme. C'était une femme qui certainement devait aimer prendre des initiatives, une femme entreprenante, une femme d'influence aussi. On peut lui reconnaître aussi un certain franc-parler. Elle devait être honnête. Et enfin, on peut lui reconnaître aussi une cinquième qualité, c'est celle d'être serviable. On la retrouve dans Jean 12, toujours dans cette même position de service. Je vous lis Jean 12, versets 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur, répandait, etc. Donc on voit que chacun est dans son rôle. Marie est toujours au pied du Seigneur et Marthe toujours en train de servir. Elle est comme ça, Marthe. Elle ne peut pas s'empêcher de servir. Le problème, ce n'est pas qu'elle servait avec empressement. Le problème, c'est qu'elle n'était pas bien dans son rôle. Le problème, c'est qu'elle n'était pas comblée dans son rôle. Alors certainement qu'elle est avant d'aller voir Jésus, elle a dû passer une première fois devant Marie en disant « Ça va ? Bien installé ?» Bon. Marie comprenait pas trop. « Bah oui, bien installé. » Marc revient une deuxième fois. « Ça va ? Il te manque de rien ? Tout est bien ? C'est intéressant ce que raconte Jésus ?» Et comme Marie ne percutait pas, certainement que Marthe a dû lui dire « Bon, ça te dérange pas que je me tape tout le boulot, non ? Il n'y a pas de problème, non ? Tout va bien ?» Et comme Marie ne percutait pas, elle a fini par aller voir Jésus en disant « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse toute seule pour servir ? Mais dis-lui donc de venir m'aider. » Alors là, elle atteint un haut niveau d'exaspération. Ce sont des propos qui montrent qu'il y avait derrière ces actes d'autres motivations que simplement de servir. Parce que si elle était bien dans son rôle, il n'y aurait pas eu de problème. Elle aurait senti une paix dans son cœur. « Ah, je suis vraiment à la place où je dois être. Je suis tellement content de voir chacun être rassasié, être bien installé. » Vous voyez, si vraiment elle était bien dans son rôle, il n'y aurait pas eu de frustration. Mais dans son agitation, en réalité, elle essayait d'attirer l'attention de Jésus. Dans son cœur, il y avait certainement ce cri, « Mais Seigneur, mais tu vois pas combien je me plie en 10 pour rendre service à tout le monde, et puis toi tu laisses faire. » Il y avait ce cri du cœur, « Reconnais ce que je suis en train de faire pour toi. Tu ne vois pas ?» Combien de fois, frères et sœurs, nous avons essayé par nos actes, par nos œuvres, d'attirer l'attention de Jésus sur nous. Au fond, nous avons servi les autres, mais peut-être parfois au fond du cœur, avec de mauvaises motivations. Dis-lui donc de venir m'aider. Ce sont des propos qui montrent aussi une certaine jalousie. Comme si elle était en compétition avec sa sœur. Elle comparait son attitude, sa manière de servir à celle de sa sœur. Encore une fois, si elle était bien dans son rôle, elle n'aurait pas eu besoin de se comparer à sa sœur. Toutes les fois où on n'est pas sécure dans ce qu'on a reçu, sécure dans notre service, sécure dans le rôle que nous occupons, toutes les fois où on n'est pas sécure dans notre position, on va se comparer aux autres. Marthe était jalouse de Marie, comme Pierre était jaloux de Jean. Jean avait une proximité avec Jésus. Vous savez qu'au dernier repas, il a posé sa tête sur sa poitrine. C'était celui qui était au plus proche de Jésus. Et c'est dans cette position-là qu'il a pu recueillir la confidence, savoir qui allait le livrer. Et Pierre, certainement, se tenait un peu plus loin, devait regarder cette relation, il devait être jaloux. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est qu'au moment où Jésus, une fois ressuscité, est revenu auprès de ses disciples, il est apparu à ses disciples, et puis il s'est entretenu avec Pierre. Vous savez, c'est le passage où il dit « Pierre, m'aimes-tu ? » « Ben oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mes brebis. » Il revient à la charge. « Pierre, m'aimes-tu ? » Pierre, il se dit, mais tu m'as déjà posé la question, mais bien sûr que tu sais que je t'aime, alors paie mes agneaux. Il revient une troisième fois, Pierre, m'aimes-tu ? Alors là, il y a une certaine tristesse dans le cœur de Pierre, parce que certainement que s'il lui pose trois fois la question, c'est qu'il en doute. Mais Jésus ne doutait pas de l'amour de Pierre, il connaît les cœurs. Paie mes agneaux. Et bon, ça c'est une parenthèse, mais de la révélation de l'amour de Jésus découle ensuite notre service pour lui et notre service pour l'Église, pour ses brebis. Et puis Jésus lui annonce en fait la façon dont il allait finir sa vie. Alors Pierre, comme il était certainement un petit peu comme Marthe, pas tout à fait sécure dans sa position, aussitôt se retourne vers Jean et se compare. Et lui, qu'adviendra-t-il ? Et lui, genre, sa situation ne lui suffisait pas. Il avait besoin de se comparer. Et Jésus lui dit, que t'importe ? Toi, suis-moi. Voyez, Pierre avait besoin de se comparer aussi. Le syndrome de Marthe, vous connaissez le syndrome de Marthe ? C'est de croire que notre identité est déterminée par ce que l'on fait. Je redis, le syndrome de Marthe, c'est de croire que notre identité est déterminée par ce que l'on fait. Et cette tendance nous pousse à accomplir toujours plus d'œuvres avec cette fausse croyance que ces œuvres déterminent notre valeur. Alors plus j'en fais pour Dieu, et plus je serai accepté de lui, plus je serai aimé de lui. Mais c'est un piège de croire que ce sont nos actes qui déterminent notre valeur. C'est un piège, c'est une impasse dans laquelle nous nous plaçons, et c'est un piège dans lequel était Marthe. Et ce qui est formidable, c'est que la réponse de Jésus n'est pas une réponse qui accuse, qui condamne et qui enferme. La réponse de Jésus va libérer cette femme frustrée. C'est dans le verset 41, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. » Alors, ça semble comme ça, à première vue, être des propos durs, des propos qui condamnent, des propos sévères, n'est-ce pas ? Et c'est vrai, ce sont des propos sévères si on les lit un peu rapidement et sans connaître vraiment le cœur de Jésus. Effectivement, si on les lit comme ça, « Marthe, Marthe !» Déjà, ça ressemble un peu à un aboiement, hein, n'est-ce pas ?« Marthe, Marthe !» Mais je ne pense pas que Jésus ait utilisé ce ton-là. Si on connaît le cœur de Jésus, il voulait lui donner la clé pour se sortir de cette situation. Marthe, Marthe. Vous voyez, c'est plus doux et ça ressemble plus à quelque chose d'affectueux. En fait, au travers de sa remarque, Jésus l'invitait à venir à ses pieds. Il ne la condamnait pas, il ne l'enfermait pas, il ne voulait pas la stigmatiser, il voulait simplement lui signifier « Marthe, Marthe, tu t'agites dans tous les sens, mais il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire. Viens avec nous, viens avec moi, viens à mes pieds et viens recevoir la vie, une vie en abondance, l'eau vive que je veux te donner. Marthe, arrête ton agitation et viens un peu avec nous, j'ai quelque chose pour toi. » Et Jésus la savait capable, en fait, d'arrêter ses activités, ce que chaque femme, chacun aurait fait quand on reçoit des invités. Il la savait capable d'arrêter toutes ses activités pour s'asseoir un moment avec lui, pour écouter sa parole. En fait, Jésus, il veut opérer un renversement de situation, puisque c'était Marthe qui était aux petits soins de Jésus et de ses disciples. Et là, Jésus veut simplement signifier à Marthe, c'est bon, tu t'es assez occupé de nous maintenant, viens profiter, c'est moi qui vais m'occuper de toi, c'est moi qui veux te bénir, c'est moi qui veux te couvrir de paroles bénissantes. C'est ça le cœur de Jésus. Si les âmes sont rassasiées par Jésus, peu importe d'avoir un grand festin, un sandwich pris à la va-vite suffira amplement. Notre identité dépend de notre relation avec Jésus et non de nos activités pour Jésus. Autrement dit, nous comprenons qui nous sommes seulement dans cette position d'adoration de notre Maître. C'est en lui que je sais qui je suis. Jésus nous connaît par cœur. Il connaît nos qualités, nos faiblesses, nos incapacités et nos manies parfois, nos craintes et nos angoisses, nos manies à vouloir cacher ce qui ne va pas dans des activités, dans l'hyperactivité, dans de l'activisme. Jésus connaît nos stratégies et nos fuites pour masquer nos blessures, nos craintes et nos angoisses. Mais il nous offre le moyen d'en sortir en s'asseyant à ses pieds et en écoutant sa parole, en passant un moment avec lui. Marie avait compris qui était son maître et quelle était la meilleure place au monde. À genoux devant Jésus. Et c'est ce que Jésus appelait la bonne part. La bonne part, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement dans le tourbillon de notre vie, dans parfois les tempêtes de nos vies, c'est de saisir les opportunités les rendez-vous divins. C'est l'appel de Dieu qui nous dit, laisse cette agitation et passe un moment avec moi. Reconnaître dans les urgences de nos vies que l'essentiel se trouve dans la main de Dieu. Et tous les moments passés, en fait, dans sa présence, eh bien, en tête à tête avec Jésus, tous ces moments-là ont une portée éternelle. C'est pour ça que Jésus dit, c'est la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors pour finir, on peut se demander pourquoi Luc nous retrace cette histoire. Est-ce que c'était pour stigmatiser Marthe, en disant, vous voyez, cette femme n'était pas très spirituelle, Marie était mieux. C'est le seul passage qui nous parle dans l'évangile de Marthe et Marie. On le retrouve ici dans l'évangile de Luc 1. Je ne pense pas que Luc ait utilisé cette histoire pour stigmatiser Marie. Honnêtement, je pense que Luc a décidé de nous raconter cette histoire parce qu'il savait que dans l'Église qui était en train de s'établir et dans l'Église à venir, nous, il y aurait beaucoup de Marthe qui auraient besoin d'entendre cette invitation. Laisse tes activités, laisse ton agitation et viens à mes pieds écouter ma voix, la voix du bon berger, la voix de celui qui connaît chacune de ses brebis et qui sait comment les bénir. Cette voix de Jésus qui nous dit, il n'y a rien que tu puisses faire qui n'augmente l'amour que j'ai pour toi. Il n'y a aucune activité, aucun acte de ta part qui augmente ou qui diminue l'amour que j'ai pour toi. Parce que je ne t'aime pas pour ce que tu fais, je t'aime pour qui tu es, parce que tu es mon enfant. Ça, c'est la voix du bon berger. Ce message de Luc est un message qui est plus que jamais d'actualité. Nous sommes dans une génération hyperactive. Et la société nous fait croire que nous avons de la valeur en faisant telle ou telle chose, en ayant telle ou telle position. Alors que Jésus nous dit, ta valeur, tu la trouves dans ton identité d'enfant de Dieu. Alors, contemplatif ou hyperactif, Dieu a travaillé 6 jours, en fait, a créé le monde, et puis il s'est reposé le 7e jour pour jouir de la création. Et nous, nous passons notre temps à travailler, pour obtenir des choses dont nous avons à peine le temps de jouir. C'est terrible, c'est un paradoxe dans lequel nous enferme la société. Avoir plus, toujours plus, mais sans jamais en jouir. Quand la société nous pousse à nous montrer toujours plus productifs, hyperactifs, il y a cet appel de Jésus, arrête-toi et viens passer un moment avec moi. Je disais, la relation précède l'action. Parce que nous avons vu dans un autre passage que, c'était dans Jean chapitre 11, que Marie à nouveau était dans cette position d'adoration. Elle a embaumé les pieds de Jésus. Elle a versé une fiole de nard pur, de parfum, d'une grande richesse. Et puis, encore une fois, les pharisiens la regardaient de loin en disant « Mais que fait cette femme ?» Avec plein de commentaires, ça fusait dans tous les sens. Avec l'argent qu'elle a dépensé, on aurait pu nourrir plein de pauvres. Ça, c'est le jugement de personnes qui ne sont pas renouvelées par le Saint-Esprit. Elle était en train d'accomplir un acte prophétique. Parce que dans cette position, au pied du maître, elle savait qui était Jésus et ce qu'il allait accomplir. Qu'il allait donner sa vie pour elle et puis pour le monde entier. C'est dans cette position, à genoux devant Jésus, qu'elle a compris qui était son maître et qu'il était le Fils, l'envoyé de Dieu. Dans cette position de proximité, elle a compris ce qu'elle devait faire, préparer sa sépulture. Pour moi, c'est un des actes les plus prophétiques du Nouveau Testament. Elle a préparé le tombeau de Jésus, elle a embaumé son corps, comme c'était la tradition, bien avant l'heure. Et c'est dans cette position de proximité, aussi comme Jean, qui avait sa tête posée sur la poitrine de Jésus, donc qui entendait son cœur battre, et qui pouvait recueillir ses confidences, qui pouvait avoir des révélations, eh bien, c'est ce qui l'a poussé par la suite, en partie, à rédiger le livre de la révélation, l'Apocalypse. C'est uniquement dans cette position de cœur à cœur avec Dieu qu'on va pouvoir, eh bien, non seulement connaître son cœur, et qu'on va pouvoir aussi recevoir ses directives. Parce que ça ne sert à rien de nous agiter dans tous les sens. L'important, c'est de faire simplement l'œuvre de Dieu. Parce que si on fait plus, eh bien, on fait autre chose que l'œuvre de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions, car mon joug est doux. Et nous, on veut faire souvent plus que ce qui nous demande par excès de zèle, je ne sais pas. Ou peut-être comme Marthe, parce qu'on n'est pas complètement au clair avec notre identité. Et ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Je voulais servir Dieu. Je voulais, parce que j'aimais Jésus. Mais je voulais servir aussi pour avoir sa reconnaissance, pour avoir son regard sur moi, en disant, tu vois Jésus ce que je fais pour toi. Est-ce que tu m'aimes? Mais c'est inversé en fait. C'est parce qu'il nous aime et parce qu'on a compris, parce qu'on a eu la révélation de son amour pour nous, qu'on a envie de se donner aux autres. Mais ce n'est pas « je sers Dieu parce que j'ai besoin de reconnaissance ou j'ai besoin d'amour », mais c'est parce qu'on est bouleversé par l'amour de Jésus qu'on a envie de donner sa vie pour servir les autres et servir son peuple. Parfois, on inverse les choses parce qu'on n'est pas installé dans notre identité d'enfant de Dieu. Dieu t'aime plus que tout, donc tu n'as rien à prouver. C'est déjà acté. Il a tout accompli pour toi. Il a donné sa vie parce qu'il t'aime terriblement. Donc tu n'as plus rien à faire pour à mériter ou avoir plus d'amour de Dieu. Par contre, si tu es touché par l'amour de Jésus parce que tu sais ce qu'il a fait, là, ça va te pousser à agir pour lui. Mais pas faire tes œuvres, faire ce qu'il te demande dans l'intimité. Alors, je vais finir en priant, en demandant à Dieu de nous aider à nous rapprocher jour après jour davantage de son cœur. Et si peut-être il y a parfois en nous des résurgences de Marthe, eh bien que Dieu nous le montre. Parce que nous ne devons pas faire les choses avec des mauvaises intentions. Prions.